franceinter.fr.
Le journal, Yves Decamp.
Bonjour. Il avait fait beaucoup parler ces dernières semaines. Le projet de loi Collomb sur l'asile et l'immigration a été présenté en Conseil des ministres. Un projet qui se veut équilibré entre fermeté et humanité, mais ne fait pas l'unanimité, y compris au sein même de la majorité. De pire en pire en Syrie, dans la Ghouta orientale près de Damas, où les bombardements se poursuivent, plus de 250 morts en 3 jours. Le ministre des Affaires étrangères a parlé de cataclysme humanitaire, mais la communauté internationale fait la preuve à nouveau de son impuissance. Invité de ce journal, une journaliste spécialisée de la Syrie, Garance Le Ken. Dans ce journal également, la première visite à l'étranger du président libérien, George Weah, c'est pour la France. Il sera reçu tout à l'heure par Emmanuel Macron. Il était ce matin au MEDEF. N'envoyez pas Cahuzac en tôle, demande son avocat Dupont-Moretti à la cour d'appel de Paris. Une médaille de bronze pour l'équipe masculine de sprint en ski de fond, la 14e pour les Français, qui se sont ratés en revanche en ski cross, dont ils étaient pourtant les favoris. Et puis les mercredis au cinéma avec Eva Bétan qui nous parlera d'un nouveau film japonais d'animation, Marie et la fleur de la sorcière, c'est beau comme du Miyazaki, dont l'auteur est l'un des disciples. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Yves.
Du soleil presque partout, incroyable.
Oui, nous allons vers une période plus calme mais aussi plus froide. Cet après-midi, la majeure partie de l'Hexagone va bénéficier de soleil et d'éclaircies. Ciel plus nuageux sur le centre-est, le long des Pyrénées et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais le temps restera généralement sec. En revanche, après-midi plus agité en Corse avec des averses voire des orages et de la neige à basse altitude et les températures continuent de baisser, variant de 5 à 12 degrés en général et 3 à 5 degrés sur le nord-est.
Un glissement de terrain a bloqué l'unique route d'accès de la station des Monts d'Olm en Ariège. 2000 personnes sont bloquées pour la journée, mais sans aucun problème, la station a bien été ravitaillée. Et donc, le soleil a fait son apparition. On ira y faire un tour tout à l'heure. Pour commencer, ça ferait un bon scénario en ce jour de sortie cinéma, l'histoire du sergent Fournier, ou plutôt de la recherche de ses descendants. Le sergent Fournier, dont le squelette avait été retrouvé il y a presque 2 ans, était un soldat de Verdun, dont les obsèques ont eu lieu ce matin à Douaumont, 1 siècle après sa mort. Par conséquent, il est le premier soldat de 14-18 à avoir été identifié génétiquement. Et c'est par l'ADN également qu'a pu être retrouvé son petit-fils, lequel était bien sûr à l'enterrement. Thibault Lefebvre, vous y étiez aussi.
Au nord.
3 cercueils sous un soleil radieux, 2 soldats inconnus et le sergent Claude Fournier. Les ossements des 3 corps ont été retrouvés ensemble à quelques centaines de mètres de là sur le chantier du mémorial de Verdun. Au premier rang, la famille du soldat reconnue et notamment son petit-fils Robert Allard.
C'est un moment de profonde émotion. On lui redonne un nom, parce qu'en fait, c'était un soldat inconnu, et maintenant c'est devenu un soldat connu, et je sais pas quoi vous dire. C'est un très beau moment.
Un moment d'émotion partagé par une centaine d'habitants du village d'origine de Claude Fournier, colombier embryonnais, c'est en Saône-et-Loire, dont 20 d'enfants venus lire des poèmes.
Les mitraillettes à la main, les casques sur la tête, prêts à combattre pour l'histoire de notre pays.
Au micro, Arthur, 10 ans.
Il faut honorer son nom parce qu'il s'est battu pour la France et du coup, grâce à son courage, son entente avec ses coéquipiers, il a eu la croix de guerre pour leur dire « Allez, on va se battre !» Grâce à leur travail d'équipe et leur coopération, ils ont gagné. Il faut pas qu'on l'enterre dans un cimetière normal et là, il est mieux ici.
Ici, donc, au milieu des 16 000 poilus enterrés dans la nécropole de Douaumont.
Thibault Lefebvre à Douaumont avec François Rivalan. Ne pas simplement accueillir, mais accueillir bien. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, l'a redit aux Parisiens ce matin. Le projet de loi sur l'asile et l'immigration qu'il a présenté en Conseil des ministres se veut parfaitement équilibré entre la fermeté vis-à-vis des migrants économiques ou déboutés du droit d'asile qui n'ont pas vocation à rester et les autres, les réfugiés qui doivent pouvoir vivre en France dans de bonnes conditions. C'est le principe de ce projet dont certains pensent qu'il penche trop dans un sens ou bien dans l'autre. Le premier projet du gouvernement, en tout cas Cyril Graziani, qui est entraîné un début de fronde au sein même de la majorité.
Et les marcheurs sont-ils des guignols avec le doigt sur la couture du pantalon comme l'a proféré Laurent Wauquiez dans les fameux enregistrements récupérés par Quotidien ou veulent-ils, peuvent-ils peser dans les prochains débats au Parlement pour alléger ce texte. Gérard Collomb défend un texte équilibré. D'ailleurs, ça n'est pas anodin. Lundi, avec Édouard Philippe, ils ont présenté tous deux un pan de ce projet sur l'intégration des étrangers pour mettre en valeur le côté humaniste. Car ce que l'on retient depuis plusieurs semaines, c'est la fermeté du ministre de l'Intérieur, avec notamment cette mesure phare, le doublement de la durée maximale de rétention à 90 jours. La majorité n'est pas à cran, mais on sent quelques crispations. Les esprits s'étaient quelque peu échauffés avec la circulaire Collomb sur le recensement des migrants dans l'hébergement d'urgence. Le gouvernement a depuis lâché du lest en renonçant notamment à la notion de pays tiers sûr. Mais les discussions s'annoncent serrées pour amender le texte avant les débats parlementaires. La ministre Jacqueline Gourault a même déjà prévenu les chances que les dispositions soient adoptées avant le 30 juin sont maigres.
Tous les détails sur ce projet de loi sur franceinter.fr. En attendant, si ce projet divise la majorité, il divise aussi la droite. Pour le député Les Républicains Éric Ciotti, il n'est pas à la mesure des enjeux et ne réduira pas l'immigration dans notre pays. Bien au contraire, ce que ne pense pas son ex-collègue Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, qui lui préfère saluer le travail de Gérard Collomb. Il était ce matin l'invité de France Inter.
Si j'étais parlementaire, je voterais ce texte, d'après ce que j'en sais, avant qu'il ne soit présenté, avant qu'il ne soit discuté. Je pense qu'on a besoin de fermeté. Je pense aussi qu'il faut gérer ces dossiers avec beaucoup de dignité, d'humanité. Et cette forme d'équilibre n'empêche pas d'avancer, d'apporter de meilleures solutions. Je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait par Gérard Collomb. Je regarde ce dossier également au travers de la situation de Calais, où là, on est directement concerné par ces phénomènes migratoires. La loi d'aujourd'hui, si elle était appliquée à Calais, ça serait une très bonne chose. Or, ça n'est pas le cas. Mais prenez par exemple la situation de Calais. Elle peut se régler à trois niveaux. En France, avec l'application de la loi française, avec les Britanniques, qui nous laissent gérer le problème de Calais, et qui de temps en temps nous font un chèque pour dire « Allez, comme vous gardez la frontière, réglez le problème avec notre argent », ce qui est un principe scandaleux. Et ensuite, très loin de Calais, aux frontières de l'Europe, mais aussi avec le développement de nombre de pays africains.
Xavier Bertrand ce matin avec Nicolas Demorand. Parmi les acteurs du droit d'asile, tous n'approuvent pas la philosophie du projet Collomb. Plusieurs centaines d'entre eux ont d'ailleurs manifesté tout à l'heure devant le Conseil d'État contre ce qu'ils pensent être un arrêt de mort du droit d'asile. Des avocats, des membres de la Cour nationale du droit d'asile ou de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'ailleurs en grève aujourd'hui, ce qui ne s'est pas vu souvent. Yoann Ancry, chef de section au service des affaires juridiques de l'OFPRA, au micro de Benjamin Hilly.
Ce qui nous paraît le plus dangereux, en fait, déjà, c'est la philosophie, puisqu'en fait, on mélange des considérations d'asile et d'immigration qui, en fait, ne doivent pas être du tout appréhendées par le même biais. Et aujourd'hui, on traite l'asile par le biais à la fois de la réduction de la dépense publique, puisqu'on raccourcit tous les délais de procédure, mais donc au détriment des droits des demandeurs d'asile. En fait, on cherche à dissuader les demandeurs d'asile de déposer demande d'asile. Par exemple, on va également pénaliser donc le franchissement illégal de la frontière, y compris pour les demandeurs d'asile, ce qui n'était pas le cas précédemment.
Il y a un délit qui est créé, un an de prison, 3750 euros d'amende.
Tout à fait. Nous, ce qu'on demande à Gérard Collomb, c'est effectivement de retirer ce projet de loi. Il porte atteinte à nos engagements internationaux, la Convention de Genève, et il porte atteinte au droit d'asile tel qu'il est actuellement et qui en fait fait notre honneur.
Une légère accalmie dans le ciel syrien la nuit dernière. Après trois jours de bombardements intensifs sur la Ghouta orientale près de Damas, les raids de l'armée syrienne se sont un peu ralentis avant de reprendre ce matin, faisant de nouvelles victimes parmi les civils. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle d'au moins 250 morts en 48 heures, notamment des enfants dans les villes et villages de cette région tenue par les rebelles. C'est le plus lourd bilan en si peu de temps depuis l'attaque chimique de 2013 qui avait fait des centaines de morts. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian parlait hier à l'Assemblée d'un cataclysme humanitaire. Invité de ce journal, Garance Le Guen, journaliste spécialisé sur la Syrie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du livre Opération César, paru chez Stock en 2015, qui dénonçait l'horreur des geôles syriennes, la vraie nature du régime de Bachar el-Assad, qui reprend d'ailleurs toujours la même méthode hein, dans la Ghouta, comme Alep, comme partout. Il s'agit de noyer les zones rebelles sous les bombes pour les épuiser.
Oui, c'est une stratégie que le régime mène depuis le début de la révolution pacifique, en fait en 2011. Le but du régime, c'est de rester au pouvoir et il ne supporte pas que des territoires soient tenus par des rebelles.
Donc c'est le même scénario qui se reproduit et dont on connaît la fin. On pose, sans que personne ne bouge, puisqu'on pose des lignes rouges sur le chimique, notamment en sachant qu'on ne pourra rien faire.
En sachant qu'on ne pourra rien faire, non. Il y a des choses à faire, c'est à nos politiques de faire, c'est à la communauté internationale de se bouger, de faire pression sur Bachar al-Assad, de faire pression sur la Russie, qui est son principal soutien. On ne peut pas dire qu'on ne peut rien faire, on essaye. C'est vrai que c'est désespérant pour les civils syriens de voir qu'au bout de... Enfin, on est en 2018, ça fait 7 ans que cette révolution a démarré et que la guerre brûle en fait la Syrie et démolit totalement la Syrie. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à faire, il y a des choses à faire. C'est aux politiques de faire.
L'ONU réclame un cessez-le-feu en parlant d'une situation qui échappe à tout contrôle. Vous pensez que ce n'est pas le cas. On pourrait contrôler la situation, mais il faudrait contrôler les Russes, convaincre les Russes.
Bah, bien sûr, mais ça c'est à... Alors, Le Drian part à Moscou dans quelques jours, très bien. Il est temps de le faire. Ça fait des années que ça aurait dû être fait. C'est bien pas de dire que ce problème-là, c'est dû à un processus politique bloqué, mais ça fait des années qu'on dit que le principal problème est le régime de Bachar al-Assad et le système syrien qui, en fait, essaye de contrôler sa population pour qui, en fait, les citoyens n'ont pas droit de vie ou de mort. Enfin, c'est vraiment le régime essaye de contrôler, ne supporte pas qu'il y ait une opposition pacifique ou militaire. Donc, il est temps quand même maintenant d'essayer de faire pression sur les Russes et sur les Iraniens, parce que Bachar al-Assad, sans le soutien russe et sans le soutien iranien, n'existerait plus. Il n'est plus rien. Il a besoin de ce soutien-là. Donc il faut effectivement aller du côté russe et du côté iranien pour essayer de faire plier le régime syrien.
Mais on a un peu l'impression que la coalition occidentale attend maintenant l'issue des combats pour traiter politiquement la situation.
Non, mais il faut arrêter de dire qu'il faut attendre l'issue des combats. Quelle sera l'issue des combats? Enfin, là, on a juste envie de hurler quand on entend ça, quoi. Quelle issue des combats? C'est un déluge de feu, ce sont des bombardements, ce sont des civils qui sont là-bas. C'est-à-dire que ils ne peuvent plus se protéger, ils essayent d'aller sous terre, mais les hôpitaux sont bombardés, les écoles sont bombardées, les boulangeries sont bombardées. Ça fait des années et des années qu'on le dit, donc il faut arrêter de dire on attend l'issue des combats et on va négocier. Mais négocier avec qui? Même négocier avec Bachar al-Assad. Comment voulez-vous négocier avec un criminel? Enfin, ça n'a aucun sens en fait.
Alors est-ce qu'on peut au moins espérer une trêve humanitaire comme le demande la France?
Ben oui, enfin, on peut espérer, il faut que la France tape du poing sur la table et soit beaucoup plus forte que juste demander. La France aussi avait dit, si jamais nous avons la preuve d'attaque chimique, nous interviendrons. Mais la France a depuis des années des preuves d'attaque chimique, des preuves d'attaque au sarin, des preuves d'attaque au chlore. On a des échantillons en France de toutes ces attaques et on ne fait rien. Donc il faut effectivement taper du poing sur la table de manière beaucoup plus forte, il faut être beaucoup plus costaud que ça et ne pas attendre l'issue des combats militaires.
Autre point de tension parmi beaucoup d'autres, évidemment, mais il implique celui-là directement le voisin turc dans la région d'Afrin, où les soldats turcs sont passés à l'offensive depuis un mois contre les Kurdes, lesquels auraient été rejoints par des troupes syriennes. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, toujours, cette région d'Afrin serait actuellement bombardée par les Turcs. La confrontation entre Istanbul et Damas, qui a toujours existé, pourrait s'aggraver et vient encore compliquer le jeu d'alliance dans ce pays.
Oui, mais arrêtons de parler de jeux d'alliance qui sont compliqués. Au départ, moi, effectivement, on peut se dire que c'est compliqué, mais il faut revenir à la racine de la guerre. C'est le régime syrien qui pose un problème. C'est le régime syrien qui martyrise sa population. C'est le régime syrien qui fait une guerre civile. Donc, effectivement, aujourd'hui, vous avez des alliances entre les puissances régionales et internationales. Mais revenons au début et essayons de revoir ce conflit d'une manière beaucoup plus simple. Vous avez un régime dictatorial qui fait une guerre à sa propre population. Et alors, nous parlons d'Afrine aujourd'hui, très bien, mais ne pensons pas que le régime a les mains libres pour bombarder la Ghouta parce que les regards sont tournés vers Afrine. Non, le régime syrien mène une guerre à sa population depuis 2011 et c'est vers ça qu'on doit se tourner aujourd'hui pour essayer de trouver une issue à ce conflit.
Garance Le Ken, journaliste spécialisée sur la Syrie, auteur du livre Opération César, paru chez Stock. Merci beaucoup. Sa première visite aura été pour la France. Le président Wea, tout nouveau président du Libéria, sera reçu dans quelques instants par Emmanuel Macron. Le casting ne sera pas banal dans la cour de l'Élysée pour la photo, puisque l'ancien footballeur du PSG pourra poser en compagnie de quelques stars du ballon rond comme Drogba ou Mbappé. Mais ça, c'est pour l'image. Dans la matinée, Georges Wea avait fait l'article de son pays auprès des industriels français. Au MEDEF, où vous étiez, Hélène Philippe.
Il y avait quand même là une cinquantaine d'entreprises, des start-up aux plus grosses, Total, Natixis, Alstom, des sociétés de transport, de télécommunications, de santé, autant de secteurs prioritaires pour le Libéria. Le président Georges Wea citait aussi ce matin l'exemple de l'agriculture, des terres agricoles.
On a des terres très riches, mais on achète tout. Même le riz, on achète. Aujourd'hui, c'est le 21 siècle. On ne peut pas acheter tout dehors. Il faut aussi envoyer quelque chose dehors.
Son pays doit s'équiper en clair pour développer son économie et pour convaincre dans un pays où il a lui-même reconnu le poids de la corruption. Il promet plus de transparence et un cadre fiscal plus favorable. C'est le point important pour Bruno Mettling, président du Conseil France-Afrique de l'Ouest du MEDEF international et qui travaille aussi pour l'opérateur Orange au Libéria.
Vous savez ce que les entreprises demandent ? C'est pas tant des baisses d'impôts, on est dans des pays où les besoins sont considérables. Ce qu'elles attendent avant tout, c'est la stabilité de l'impôt. Ce qui n'est pas supportable, c'est de découvrir des hausses brutales, massives de l'impôt, comme on a pu connaître dans le passé au Libéria, d'un budget sur l'autre, sans aucune préparation, qui bouleverse complètement le cadre dans lequel vous avez décidé d'investir. Il faut des règles claires sur lesquelles on peut baser nos investissements et des règles stables.
C'était une première rencontre constructive. Une délégation du MEDEF se rendra rapidement au Libéria pour évaluer plus précisément les besoins.
Hélène Philly, attention, grève dure à Air France demain. 10 syndicats de pilotes de personnel navigant et au sol appellent à cesser le travail pour réclamer une augmentation de salaire de 6%. La moitié des vols long courrier, un quart des moyens et courts courriers au départ de Paris pourraient être annulés. Des revendications tous azimuts pour les agriculteurs à 3 jours du salon de l'agriculture, à la veille d'une rencontre avec Emmanuel Macron. Les exploitants de la FNSEA et du mouvement des jeunes agriculteurs ont fait de ce mercredi une journée de l'incohérence. Les relations avec la grande distribution, la sortie programmée du glyphosate, le plan loup pour les éleveurs, le traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud dont ils ne veulent pas, de nombreux sujets d'inquiétude dont ils voudraient alerter l'opinion en mettant la pression sur le gouvernement, d'où ce matin quelques barrages filtrants en Bourgogne, en Normandie ou des distributions de tracts comme ici dans la région lyonnaise, Christophe Vincent.
Le vent et le froid glacial n'ont pas découragé les agriculteurs drômois, isérois et ardéchois. Dans leur tract distribué aux automobilistes, ils dénoncent l'accord Mercosur entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud, accord qui permettrait l'importation de 100 000 tonnes de bœuf avec une menace sur 30 000 éleveurs. Grégory Chardon, président de la FDSEA dans la Drôme.
Par rapport aux états généraux de l'alimentation qui sont en discussion, on joue beaucoup sur la montée en gamme des produits français. Et c'est vrai que ces produits d'importation sont vraiment de moins bonne qualité que nos produits. Donc ça va complètement déstabiliser les marchés et ça va tirer les prix vers le bas.
Les manifestants dénoncent par ailleurs l'abandon des aides aux zones défavorisées simples pour 1349 communes. Ajouté au Mercosur, ça fait beaucoup pour Olivier Fraisse, agriculteur en Ardèche.
C'est les producteurs de viande qui risquent d'être touchés chez nous, puisqu'on risque des importations massives de viande à des prix défiant toute concurrence. Des viandes qui en plus risquent d'être nourries aux hormones, aux antibiotiques, choses qui sont interdites chez nous.
Les manifestants veulent faire pression sur le gouvernement à la veille du salon de l'agriculture. Au péage de Vienne-Reventin, sur la 7, Christophe Vincent, France Inter.
Parmi les sujets de tension également, la modification de la carte des zones défavorisées qui détermine le versement des indemnités compensatoires. Des communes y font leur entrée, d'autres en sont exclues. Dossier à consulter sur franceinter.fr. La parole à la défense au procès Cahuzac après le réquisitoire de l'avocat général hier qui a demandé confirmation du jugement de première instance. 3 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité. L'avocat maître Dupont-Moretti a demandé ce matin qu'on évite d'envoyer en tôle l'ancien ministre du budget devenu un paria de la République, Sarah Guibaudeau. Cahuzac en prison, pour maître Dupont-Moretti, ce ne serait pas une décision de justice.
Il vous l'a dit, j'ai peur d'aller en prison. C'est tellement humain, plaide Éric Dupont-Moretti, qui tente justement d'humaniser l'ancien ministre. Il décrit sa première rencontre avec un Jérôme Cahuzac, planqué dans un appartement parisien, avachi, honteux. L'avocat l'imaginait arrogant, il a trouvé un homme à terre. Un homme prisonnier du mensonge. Cet argent qui, selon lui, devait à l'origine financer le socialiste Michel Rocard, il l'a traîné comme un boulet. Allez se déclarer au fisc, poursuit Éric Dupont-Moretti. Bonjour, je m'appelle Jérôme C, j'ai planqué du pognon en Suisse. C'était un suicide professionnel. Maître Jean-Alain Michel demande une juste peine qui n'accable pas un homme fini, fracassé. Éric Dupont-Moretti souligne que les faits ont commencé à une époque où la fraude fiscale était un sport national, selon lui, et qu'on trouve peu de peines de prison ferme dans la jurisprudence. Certes, cela ne correspond pas à un ministre du budget, je l'entends, ajoute-t-il. Seule concession à l'avocat général qui hier estimait au contraire que l'incarcération était seule à la mesure des faits qui portent atteinte à la démocratie. Jérôme Cahuzac n'a rien ajouté aux plaidoiries de ses avocats.
La Cour d'appel de Paris rendra sa décision le 15 mai. À Tours, il administrait des médicaments à ses élèves pour mieux les agresser. Un chef de chœur du conservatoire a été mis en examen pour viol et agression sexuelle. sexuelle sur mineurs. Âgé d'une soixantaine d'années, il aurait abusé de plusieurs adolescents à l'occasion de sorties pédagogiques prétendument programmées par le conservatoire, mais qu'il avait lui-même organisées. Des parents ont été alertés par leurs enfants qui leur ont raconté n'avoir pas voulu prendre les médicaments du chef de chœur.
Jeux Olympiques d'hiver 2018 sur France Inter.
Une nouvelle médaille pour l'équipe de France, médaille de bronze dans le relais masculin du ski de fond. C'est la deuxième, Richard Vivion, après le relais à 4. C'est l'équipe du sprint qui s'est surpassée ce matin.
Effectivement, l'équipe du sprint, il y avait de l'émotion chez les tricolores il y a encore quelques minutes lorsqu'ils sont montés sur les podiums, de l'émotion, des larmes, de la joie, surtout parce que pour le ski de fond français, eh bien, cette deuxième médaille dans des Jeux Olympiques, c'est tout simplement historique. C'est la quatrième seulement médaille olympique pour le fond français après celle du sprint individuel en 2006 de Roddy Dragon. Les deux médailles de bronze des relais en 2014, il y a quelques jours seulement en 2018, et donc celle-ci conquise par Maurice Magnifica, 32 ans, le spécialiste des longues distances, et Richard Jouve, le briançonnais âgé de 23 ans, le teigneux hargneux sprinter qui a réussi à coiffer sur le fil il y a un petit peu moins d'une heure maintenant le Suédois pour offrir la médaille de bronze à l'équipe de France derrière l'équipe des athlètes olympiques russes. La victoire est revenu, comme on s'y attendait, dans cette épreuve de sprint à la Norvège. Donc, nouvelle médaille pour la France, la 14e au total dans ces Jeux Olympiques de Pyeongchang.
Richard Vivion à Pyeongchang avec Éric Audra. Moins de réussite, en revanche, la nuit dernière en ski cross, où les Français super favoris, 4 ans après leur triplé de Sochi, se sont ratés. Aucun d'eux n'est allé en finale. Terence Tchiknavorian, médaillé de bronze en Russie, s'est même fracturé le tibia dans une chute. C'est ce qui s'appelle un jour 100. Et puis, record de médailles, toutes catégories confondues, pour Marit Bjørgen, la Norvégienne. Record de médailles de toute l'histoire des Jeux d'hiver. Elle a décroché ce matin avec la Norvège le bronze du sprint par équipe, en ski de fond, justement. C'est sa 14e médaille olympique dans sa carrière. Elle dépasse le fameux Bjørn Dalen. Des Jeux Olympiques dont on aura noté parfois le peu de public qu'il draine le long des pistes. Faut dire qu'il a fait très froid au pays du matin calme, géographiquement qui plus est très éloigné des populations les plus habituées aux sports d'hiver. Certaines équipes et certains athlètes ont vraiment très peu de supporters pour les encourager. D'où cette initiative plutôt sympa des organisateurs. Frédéric Ojardias à Pyeongchang.
Ils se font appeler White Friends, les amis blancs. Si leur nom est un peu étrange, cette manifestation de l'hospitalité à la coréenne part d'une excellente intention. Les White Friends, ce sont des bénévoles coréens qui soutiennent les athlètes de pays dont les fans n'ont pas les moyens de s'offrir le déplacement jusqu'en Corée du Sud. Chaque jour, ils sont environ 700 volontaires de tous les âges à être ainsi déployés sur les gradins de Pyeongchang. Ils reçoivent d'abord une petite formation de 3 heures afin d'éviter tout impair dû aux différences culturelles, puis ces amis blancs sont envoyés crier leurs encouragements dans un anglais souvent approximatif à des athlètes inconnus dans des sports dont ils découvrent parfois l'existence. La province qui accueille les Jeux leur offre tickets et frais de transport, ainsi que de petites chauffettes pour ne pas attraper froid. 10% des tickets des Jeux n'ont toujours pas été vendus. Avec cette initiative, le pays organisateur a trouvé un moyen simple et malin de remplir les gradins parfois clairsemés des épreuves les moins recherchées par le public sud-coréen. Pyeongchang, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter.
Voilà, rien à voir avec les militants politiques autrefois rémunérés pour venir faire la claque au meeting. Allez, c'est mercredi, c'est cinéma, c'est Eva Bétan. Bonjour Eva.
Bonjour.
Vous nous avez parlé ce matin, je vous ai entendu, oui, de La forme de l'eau
et de Guillermo del Toro.
Fantastique film, fantastique, vous confirmez?
Tout à fait. Et vous c'est un haïku, mais vous avez bien résumé, allez-y.
Ben justement, un haïku, vous nous parlez ce midi d'un film d'animation, un film japonais, c'est déjà une référence. Marie et la fleur de la sorcière d'Hiromasa Yonebayashi.
Oh, kirei. Mori de mitsuketan desu.
Sono hana no namae wa
Alors j'ai dit que c'était beau comme du Miyazaki, c'est peut-être un peu trop.
Vous avez un petit peu poussé, ouais. Mais c'est un très joli film. Les héros s'appellent Marie et Peter, elle est rousse aux yeux bleus et lui blond, et pourtant il parle japonais. Mais dans le monde de la magie, on ne va pas s'étonner pour si peu. Plus prosaïquement, le film est inspiré d'un livre britannique de Marie Stewart, et c'est de l'animation japonaise par un ancien des studios Ghibli, les fameux studios de Miyazaki. Un film peut-il être débridé et sage à la fois ? Eh bien, il y a les deux dans ce film. Débridé, cela renvoie à la promesse d'inventivité visuelle et à la joie qu'a le metteur en scène de filmer. Par exemple, la première apparition de la méchante, entre guillemets, eh bien, il y a un bassin d'eau et tout d'un coup l'eau s'élève, elle prend la forme d'une personne. Ou bien, il fait ressentir ce que c'est que la joie, le plaisir de voler dans les airs avec un balai. Sage parce qu'on retrouve beaucoup de clichés du film de magie, comme les balais qui volent. Oui, mais le réalisateur, elle a dû dire « Ok, je suis au courant, mais on va quand même prendre du plaisir à le faire ». Donc, il y a une petite fille solitaire, Marie, qui découvre une fleur rare, la fleur des sorcières. Cette fleur donne momentanément le pouvoir de voler, elle va donc s'en servir, mais elle est convoitée par d'autres sorciers. Il sera question dans ce film d'une école de sorciers. Ça vous fait penser à Harry Potter? Oui, mais se serrer une sorte de Poudlard. Poudlard, c'était le nom de l'école d'Harry Potter, dévoyé, où les patrons sont devenus des sortes de magiciens monstrueux qui savent quel est le pouvoir de la magie. Et ça renvoie à une idée actuelle qui est il ne peut pas y avoir de science sans contrôle. En gros, il ne pourrait pas y avoir de magie sans morale. Alors, il y a les valeurs qu'on connaît dans l'animation, la vaillance, le courage, le respect de la parole, l'amitié et aussi la liberté qu'il faut laisser aux enfants. Le film est inspiré de l'esprit des studios Ghibli. Ceux qui ont vu les Miyazaki penseront à Kiki la petite sorcière. Il ne faut pas comparer parce qu'il n'y a pas cette profondeur, ce côté qui touche au chef-d'œuvre. C'est malgré tout un film joyeux qui fait du bien avec plein d'idées, plein d'inventions et avec un vrai, vrai personnage de cinéma. C'est Marie qui fait beaucoup de bêtises avant d'apprendre à voler.
Marie est la fleur de la sorcière.
Et puis en plus, il y a les vacances scolaires.
En plus, c'est les vacances. Voilà. Allons-y. La météo dans quelques instants. D'abord, c'est 2000 personnes qui sont coupées du monde dans l'Ariège, au Mont-d'Olm, où un glissement de terrain a complètement obstrué la route d'accès. Résultat des chutes de pluie et de neige de ces derniers jours. Le passage pourrait être dégagé d'ici ce soir. En attendant, rien de grave. Corinne Cutillat, les habitants de la station, notamment les vacanciers, ont de quoi s'occuper sur les pistes.
Une première coulée de boue a eu lieu vers 20h. La mairie réagit rapidement et demande l'intervention d'un tractopelle pour dégager la route. Mais le temps d'aller chercher l'engin, une deuxième coulée, plus importante celle-là, se déclenche. Coulée de boue et d'arbres. Seulement voilà, il fait déjà nuit, il pleut beaucoup, impossible d'intervenir. Une équipe de 7 pompiers parvient tout de même à passer de l'autre côté et à rejoindre la station de ski. Le maire de Montferrier-les-Monts-d'Olm, Frédéric Lafont.
On avait sécurisé la station au moins en cas d'incendie et de malaise. Et on a décidé qu'on mettrait le paquet dans la journée. C'est ce qu'on est en train de faire là pour essayer de dégager l'accès le plus rapidement possible. C'est les vacances, tout est plein là-haut. Je sais pas, il doit y avoir au moins 2000 personnes, oui. Tout le monde est au chaud, tout le monde a à boire et à manger, donc ça va. Il y a les services de secours, tout est OK. En plus, il y a un rayon de soleil qui est en train d'arriver, donc ça va solutionner pas mal de choses.
Pas de panique à la station, donc d'ailleurs de nombreux vacanciers ne se sont rendus compte de rien et n'ont appris l'éboulement que ce matin. Toulouse, Corinne Cutillat, France Inter.
Les Monts d'Olm, dont est originaire la championne olympique des bosses, Perrine Lafont, la météo.
La météo avec Région de Job. Souriez, des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous sur regionjob.com.
Du soleil et de belles éclaircies presque partout, Sébastien Léas.
Hormis quelques petits flocons qui virevoltent le long des Pyrénées, la tendance est à l'accalmie sur l'Hexagone. Quelques rares averses peuvent déborder, du Var aux Alpes du Sud sous un ciel nuageux. Beaucoup de nuages également, de l'Auvergne à l'Isère jusqu'en Franche-Comté. Les éclaircies sont plus nettes du Midi Toulousain à l'Aquitaine, du Poitou-Charentes au Berry et au sud des Vosges et le long des côtes de la Manche. Sur le reste du pays, c'est le soleil qui vous accompagne cet après-midi dans un ciel presque tout bleu. En revanche, les conditions sont plus perturbées sur la Corse. Les nombreux nuages s'accompagnent d'averses, parfois ponctuées de coups de tonnerre, et la neige apparaît des 400 mètres d'altitude. Les températures maximales sont en baisse cet après-midi et le vent de nord-est accentue la sensation de fraîcheur. Prévoyez seulement 4 degrés à Strasbourg et à Clermont-Ferrand, 6 degrés à Paris, Lyon, Lille et au Havre, 8 degrés pour Rennes et Bordeaux, 11 degrés à Montpellier et on ira jusqu'à 12 degrés à Ajaccio et à Nice.